coalition des fondations françaises pour le climat présente Climat et ODD, les fonds et fondations en action.
Témoignages de fonds et fondations sur leurs engagements pour le climat.
Une collection de podcasts originaux produite par le Centre français des fonds et fondations avec le soutien de la Fondation de France.
Et réalisée par Écran Sonore.
Quel rôle pourraient ou devraient jouer les fonds et fondations dans les initiatives pour accélérer les transitions, favoriser la résilience des personnes et des sociétés les plus vulnérables face aux défis du changement climatique, tant qu'il est encore temps?
Puisqu'il est encore temps.
C'est ce que cette série de podcasts originaux propose de faire entendre.
Et c'est tout l'enjeu de la Coalition française des fondations pour le climat, la CFFC.
Créée en novembre 2020 par le Centre français des fonds et fondations, pilotée par la Fondation Daniel et Nina Carasso, la Fondation de France, le Fonds Lire et Sourire et la Fondation Terre Solidaire. Plus d'une centaine d'entre elles ont rejoint cette initiative salutaire et signé le manifeste proposé par la CFFC. Il s'adresse à tous les types de fonds et fondations, quel que soit leur objet, leur forme juridique et leur taille.
Si vous souhaitez rejoindre ce mouvement ou en savoir plus sur les actions des fondations, cette collection inédite de podcasts est faite pour vous. 6 épisodes pour 6 piliers du changement contenus dans le manifeste pour le climat.
Épisode 2.
Inclure l'enjeu climatique dans le fonctionnement interne.
Deuxième pas.
Sortez de l'hypocrisie.
Embarquez tout le monde avec vous dans votre organisation.
Mesurez.
Essentiel.
Être cohérent.
Parce que la cohérence est indispensable pour la crédibilité de nos organisations.
Engagé. Politique.
Les ODD nous invitent à regarder de façon conjointe les enjeux environnementaux, mais aussi sociaux et économiques, et à le faire en incluant des problématiques de coopération.
Implication de tous.
Convergence.
Enthousiasme.
Coopération.
Co-responsabilité.
Participation.
Pratiquer le climat au quotidien.
Cohérence. C'est notre survie à tous qui est en question.
Inclure l'enjeu climatique dans le fonctionnement interne des fondations. Béatrice de Monlo, question à la responsable de la Coalition française des fondations pour le climat. Comment vous nous résumeriez ce deuxième pilier ?
Ce deuxième pilier porte sur l'intégration des enjeux climatiques dans le fonctionnement interne des fondations. Et donc, il s'agit en fait d'intégrer cet enjeu chaque fois que c'est possible, chaque fois que c'est pertinent, en choisissant une approche progressive. Donc vous pouvez par exemple travailler sur votre consommation d'énergie en essayant de la diminuer, la gestion de vos déchets, vos modalités de transport, la gestion de vos bâtiments, l'impact carbone de tout ce que vous faites, et aussi agir dans l'organisation de vos événements. Donc je vous donnerai deux exemples. Celui qui a été mis en place dans la fondation RTE, qui a fait son bilan carbone propre à la fondation et qui a en fait intégré les trois scopes du bilan carbone, ce qui est assez motivant et original et permet de donner un exemple qui peut servir à tous. Le deuxième exemple, c'est la fondation EPSA, qui a travaillé sur la mobilité de ses collaborateurs, puisqu'ils se sont rendus compte en mesurant l'impact que ça représentait 59% de leurs émissions. Donc il y avait un levier important et donc ils ont changé toutes les modalités de la mobilité. Ils ont aussi agi sur la réduction de l'empreinte carbone de leurs bâtiments et notamment sur la consommation d'énergie.
Victoria Chevalier, je m'occupe de l'environnement de travail à la Fondation de France depuis 3 ans. Aujourd'hui, on va parler d'inclure l'enjeu du développement durable en interne à la Fondation de France.
Et souvent, quand on parle d'environnement, on parle évidemment de grands espaces, on parle d'externe, d'extérieur, on parle de ce qui se passe ailleurs. Or, ça commence, j'allais dire, par nos gobelets que chaque jour on remplit à la machine à café.
Ça commence par là, effectivement. En tout cas, c'est par là que nous, on a commencé. Donc, on a supprimé complètement les gobelets de la fondation. Plus de gobelets jetables. Et c'était notre première action, un peu coup de poing, pour lancer, en tout cas, notre démarche à la fondation.
Ensuite,
On a essayé de mobiliser l'ensemble de nos salariés. Donc, on a établi tous ensemble, avec tous les collaborateurs, des groupes à thème qui étaient les transports et la mobilité à la Fondation de France, le Green IT, donc la sobriété numérique, les achats responsables, une stratégie qui était plutôt axée bilan carbone, et un groupe sensibilisation pour pouvoir parler à tout le monde en interne, en tout cas dans un premier temps.
On peut à chaque fois développer avec des petits exemples, par exemple, ne serait-ce que sur le transport, ce que ça représente, ce que ça revêt, ces initiatives.
Par exemple, sur le transport et la mobilité, ce groupe de volontaires, donc ces 5-6 personnes qui se sont mobilisées sur ce sujet, ils ont décidé déjà de faire un état des lieux de ce qui se faisait chez nous, nos bénévoles et nos collaborateurs, comment voyageaient-ils pour faire leur mission dans le cadre de leur travail, et comment voyageaient-ils pour venir au travail tout simplement. Donc ça s'est traduit par des enquêtes tout simplement, et par des prises de décision. Par exemple, aujourd'hui on a une politique voyage pour prendre le moins d'avions possible, ou un parking à vélo qui s'est multiplié pour encourager le vélo à la Fondation. On réfléchit aussi à des bornes pour brancher les voitures hybrides ou électriques. Exemple d'action. Par exemple, sur la mobilité, on a eu sur l'informatique, on a baissé la clim de notre salle serveur parce qu'on s'est rendu compte que ce n'était pas utile de climatiser à ce point-là. Donc on a eu une belle économie d'énergie sur ça. On a travaillé sur les achats responsables en optimisant nos livraisons pour en avoir le moins possible. Aujourd'hui, il n'y a plus de faire nos commandes au fil de l'eau. Et on a travaillé sur la stratégie bilan carbone aussi, qui a servi un peu de pilier à tous ces groupes.
Alors justement, sur la stratégie bilan carbone, par où on commence ?
Déjà, on a décidé, nous, comme on ne savait pas par où commencer non plus, de se faire accompagner par un prestataire qui, pour nous expliquer et pour faire notre premier bilan carbone et nous expliquer comment ça marchait. Il a établi notre premier bilan carbone et nous a formés pour qu'on puisse faire les prochains.
Tout ça coûte un peu d'argent.
Pas tant que ça. Pas tant que ça. Le premier bilan carbone, il ne nous a pas coûté très cher pour la méthode. Et après, on l'a complètement fait en interne. Et aujourd'hui, on innove un peu, on évolue, puisqu'on fait appel à un nouveau prestataire qui va élargir un peu notre bilan carbone, puisque c'est un peu technique, mais il y a plusieurs scopes dans notre bilan carbone. Donc le premier où on peut agir directement et le dernier où c'est moins facile, puisque c'est nos prestataires en général.
Les scopes, c'est les étapes, c'est les...
Non, c'est les périmètres d'action. Scope 1, donc périmètre très proche où on peut agir directement, comme supprimer les gobelets. Scope 2, un peu plus largement, c'est le bâtiment. On peut agir aussi, puisque ça dépend de nous directement. Et scope 3, où là, c'est plutôt, ça revient presque à faire le bilan carbone de nos prestataires. Beaucoup plus large et beaucoup plus compliqué. Mais on commence par le début. Donc on commence d'abord par ce qu'on peut faire chez nous. Et donc, on a fait nos propres bilans carbone en interne, 2019 et 2020. Qui se sont révélés plutôt bons, donc c'était plutôt une bonne surprise, mais avec plein de choses à faire quand même pour s'améliorer, puisque on faisait ça pour ça à la base, connaître les principales sources d'émissions et permettre un plan d'action efficace avec peut-être même se fixer des baisses chiffrées. Aujourd'hui, on est en cours.
Quelles ont été les répercussions, si vous deviez en citer une, par exemple, qui vous a marqué, juste de mettre en place toutes ces choses, sur les fondations que vous abritez ?
Une action les plus marquantes pour nos fondations abritées et pour aussi nos porteurs de projets, c'est qu'en fait, c'est devenu obligatoire maintenant dans les formulaires qu'ils remplissent de répondre, en tout cas pour une fondation abritée, à un des 17 ODD. Donc de nous dire à quel ODD il répond en montant cette fondation. Et dans chacun des dossiers des futurs porteurs de projets, ils doivent aussi cocher les cases pour nous dire à quel ODD répond leur projet de demain. Donc ça a sensibilisé pas mal de nos porteurs de projets et de nos fondations, puisque parfois c'est la première fois qu'ils en entendaient parler, parfois ils connaissaient déjà le sujet, mais ça a relevé en tout cas pas mal de questions et des questionnements qui sont venus nous voir pour nous interroger sur la démarche, et certains aussi s'en sont inspirés chez eux. Donc c'était très intéressant. On a aussi fait des brochures pour nos parties prenantes pour qu'ils comprennent mieux aussi ces ODD et pourquoi on en parlait en tout cas dans nos formulaires et dans leur intégration chez nous. Donc ça a permis de les sensibiliser et parfois même de qu'ils se les approprient. Donc super.
Vous avez mis, Victoria Chevalier, un système en place de compensation de votre pollution aussi, non ?
En fait, dans le cadre de l'agenda 2030, on a beaucoup, beaucoup réfléchi, examiné plein de possibilités, autant internes qu'externes, de pouvoir contribuer en tout cas à compenser nos émissions que nous, on ne pourra jamais réduire puisque c'est inhérent à notre activité, même si elles ne sont pas énormes, elles seront toujours là. On sera pas, aujourd'hui, on aura toujours un peu d'émissions. Donc du coup, plutôt que de nous orienter vers un système de compensation classique qui ne nous satisfaisait pas du tout parce que de par déjà nos valeurs, en termes de suivi des actions, nous, on n'a pas choisi cette option. On a préféré financer Silvact, même si du coup, ça ne nous apporte pas de crédit carbone, comme ça pourrait dans le cadre de la compensation.
Silvact, c'est ?
C'est un organisme qui gère donc de façon durable les forêts en France et qui contribue à la préservation tout en favorisant l'implication de tous les acteurs et en veillant aux bénéfices socio-économiques locaux. Donc en fait, c'est des actions très très localisées dans les forêts et ils permettent donc, face au réchauffement climatique, d'avoir une gestion plus durable de leurs forêts et donc de préserver nos puits de carbone qui sont très nombreux en France. Et nous, on a préféré ces actions qui nous parlaient plus en tout cas à la Fondation de France. En plus de continuer, bien sûr, sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre en interne.
Et alors, maintenant que vous avez mis tout ça en place, qu'est-ce qui reste à faire pour la suite ?
Plein de choses. On continue, comme je vous ai dit, sur notre belle lancée. On a eu quand même le Covid qui est rentré en jeu, donc dans nos groupes de volontaires, on n'a pas pu se réunir comme on voulait, donc il faut remobiliser en interne. Mais il y a une grosse demande, donc on n'aura pas de mal à remobiliser en interne. On a aussi un projet de restructuration de nos locaux, parce qu'on a une grosse partie de nos émissions qui sont dues à la mauvaise isolation de nos locaux. Donc on part sur des gros travaux pour aller dans ce sens-là.
Victoria Chevalier, quelle est l'action dont vous êtes la plus fière ?
Je pense qu'on a réussi une chose, c'est qu'au lieu de corriger tout le temps, on a réussi à mettre en place dès la genèse d'un projet qui était la réfection de notre site internet, et on l'a fait de façon à ce qu'il soit le plus écologique et le plus durable possible. Donc là, pour la première fois, on a fait un projet dès le début en pensant à ça, et je trouve que c'est une belle avancée et c'est le futur.
Qu'est-ce que vous diriez à tous ceux qui n'ont et qui nous écoutent, et même peut-être ceux qui, hébergés au sein de la Fondation de France, toutes ces associations ou ces fondations, et qui n'ont pas encore signé le manifeste, qu'est-ce que vous leur diriez ? Il est encore temps, unissons-nous, faisons appel au collectif.
Je dirais déjà que, sans nous en tout cas, au début de notre réflexion, on s'est dit qu'on avait... On partait de zéro alors que pas du tout. Je pense que tout le monde, personne ne se rend compte de ce qu'on fait déjà, mais tout le monde en fait déjà beaucoup. Et que c'est pas si compliqué, c'est pas si coûteux, c'est assez facile de s'y mettre. Et puis tout le monde le demande.
Bonjour, je suis Élodie Roland, adjointe au délégué général de la Fondation RTE et je viens vous parler du pilier 2.
Élodie Roland, bonjour. Pour vous mettre en chemin sur la baisse de votre empreinte sur l'environnement, qu'est-ce que vous avez mis en place en interne pour contribuer à cette baisse ?
Alors, ça fait quelques années qu'on réfléchit à comment être exemplaire, nous, en tant que fondation, dans cette dynamique de réduction globale des émissions de gaz à effet de serre, parce qu'on portait ce sujet-là déjà, mais on n'arrivait pas à apporter des preuves de ce qu'on disait. Et donc, en 2020, on a lancé un appel d'offres pour nous accompagner dans la réalisation de notre bilan carbone. Premier bilan carbone de la Fondation. Et on a été accompagné par CarbonCA, donc, qui est une agence spécialisée sur ce sujet-là, pour faire une formation action pour faire ce premier bilan carbone. Et donc CarbonCA nous a accompagnés pour définir une méthodologie qui était propre à la Fondation, donc sur les scopes 1, 2, 3. C'était intéressant d'identifier des projets types. Parmi donc une année de référence, un bilan carbone c'est une année de référence, donc là on a fait sur 2019, et donc on a fait 5 profils types de projets, avec pour chacun un profil type d'émission, de facteur clé d'émission, et on a fait le calcul à hauteur de la subvention qu'on accordait à ces projets-là pour faire le bilan carbone de la Fondation sur cette année donnée. Alors pour donner un point de départ, parce que ça a évolué, on était à 2600 tonnes équivalent CO2 en 2019. Donc on ne s'est pas arrêté là, évidemment, on a poursuivi. Donc là, ce qui était intéressant, c'est qu'on a formé des collaborateurs RTE qui n'étaient pas encore dans le périmètre de la Fondation et qui ont découvert la méthodologie du bilan carbone. L'objectif, c'était aussi d'évangéliser les salariés de l'entreprise pour qu'ils connaissent cette compétence et qu'ils puissent en parler aussi en interne, dans l'entreprise. Et ensuite, donc 2021, donc on refait l'exercice. Mais là, pour cette année-là, on décide de proposer aux projets qu'on accompagne de faire leur propre bilan carbone à eux. Donc, d'aller plus loin encore dans la démarche. Et donc, on retient là 5 projets donc, pour lesquels on fait un bilan carbone. Avec à chaque fois, donc il y a un salarié de l'équipe de la Fondation et un bénévole, donc soit quelqu'un qui avait été formé l'année précédente, soit un nouveau salarié qu'on a formé. On a fait une petite session de formation. Donc là, c'était beaucoup plus intéressant parce que les porteurs de projet étaient déjà très motivés. C'était sur la base du volontariat parce qu'il faut quand même du temps et des données disponibles. C'est les deux prérequis pour faire un bilan carbone. Et avec eux, on a réfléchi à comment mettre en mots ce bilan carbone, c'est-à-dire au-delà de la grille Excel, qu'est-ce que ça veut dire cette empreinte carbone sur une année donnée dans un secteur type recyclerie, ressourcerie, parce que c'est un des bilans carbone qu'on a mené l'année dernière. Et au final, donc on a eu ces petits rapports communicants. Et le porteur de projet, par exemple, de la recyclerie du Pays de Bray, en fait, a pris connaissance avec tous ces calculs, parce qu'on a essayé aussi d'évaluer les émissions évitées grâce à une activité de ressourcerie-recyclerie. Et donc, s'est rendu compte de ce potentiel à valoriser d'émissions évitées et de l'utilité sociale de ce type de projet dans un territoire rural. Et là, il a pu aller voir des élus pour démontrer que oui, il y a un impact positif sur son empreinte carbone. Il ne fait pas qu'émettre du CO2, il permet aussi de réduire du CO2. Ça, c'est hyper intéressant en termes d'éléments de discours pour les porteurs de projets et plus globalement pour tout l'écosystème qui travaille dans les territoires ruraux. Parce qu'on est, évidemment, toute activité humaine émet du carbone, en fait, mais parce qu'on met des actions vertueuses en place, on peut valoriser ces émissions évitées. Et après, évidemment, on peut aussi capter du carbone, ça c'est encore un autre sujet. Et nous, on n'arrive pas encore à valoriser la captation carbone, parce que c'est des calculs qu'on ne maîtrise pas tout à fait. Voilà, et donc on continue à chaque fois les exercices, et là on est reparti cette année, on est en plein dedans. On a plusieurs projets qu'on accompagne, notamment là sur le sujet de mobilité, ce qui est un vaste sujet aussi, comment on mesure l'empreinte carbone des mobilités, et comment on fait pour démontrer que même si on émet du carbone, ce qui est impossible de faire autrement dans le monde rural aujourd'hui, Le contrepoids de la justice sociale apportée par ces projets qui permettent d'accéder à l'emploi, aux services, à la santé, à la culture, et ben en fait, on ne peut pas aller l'un contre l'autre. Quoi. C'est pas possible. Justice sociale et transition écologique, l'équation n'est pas forcément facile à mener. Ces questions de justice sociale ne doivent pas faire peser non plus uniquement sur les territoires ruraux. Cet effort de décarbonation est très important. Donc les questions de mobilité inversée, donc le service va à la population, c'est quelque chose d'indispensable dans les territoires ruraux. Et on ne peut pas faire sans aujourd'hui, en fait, c'est impossible. Après, la question de la mobilité, il y a plein de projets en mobilité qu'on voit. Donc une carrefourette itinérante, par exemple, qui va apporter des loisirs pour les plus petits, une auto-école mobile. Quand il n'y a pas d'auto-école dans un territoire, comment on fait pour accéder à l'emploi? Ben pareil, ça c'est des projets qui sont hyper intéressants. Et nous, ce qu'on fait à la Fondation, donc on parlait de bilan carbone tout à l'heure, pour aussi optimiser notre bilan carbone, c'est que là, on s'est dit, bah, peut-être on va aller questionner le besoin de mobilité à chaque fois qu'on reçoit un projet, parce qu'il y a quand même un effet de mode aussi hein, sur la mobilité, il faut être transparent. Il y a des territoires, il y a un vrai besoin. Il y a des territoires où peut-être il faudrait mieux questionner la co-construction partenariale à l'échelle du territoire pour se dire, est-ce que je suis bien allé voir chaque partenaire? Est-ce qu'une salle peut potentiellement être mise à disposition? On n'y avait pas pensé, ça va éviter une mobilité. Donc voilà, donc bien réfléchir en amont sur le territoire avec le porteur de projet quand on reçoit le projet, quand on reçoit le dossier de demande de soutien pour s'assurer que toutes les conditions ont été remplies pour justifier que cette mobilité, elle soit financée.
Vous, ce dont vous êtes rendu compte, c'était surtout qu'il fallait agir sur le scope 3, et donc du coup, vos rapports avec vos parties prenantes, vos partenaires, et l'accompagnement de vos porteurs de projets.
Dans la méthodologie de réalisation du bilan carbone, les calculs se font sur trois scopes. Scope 1 et 2, en général, sont ensemble. Et le scope 3, c'est tout ce qui est les émissions induites. Donc, pour nous, à la Fondation RTE, les émissions induites par la Fondation, c'est les projets qu'on soutient. Parce qu'on a décidé d'embarquer les émissions des projets qui sont accompagnés par la Fondation. Donc, on a alloué une clé d'allocation en fonction du volume financier accordé aux projets, selon leurs émissions carbone, et on les a intégrées dans notre propre bilan carbone. Et pour nous, c'était une rigueur intellectuelle et une transparence de dire on soutient des projets qui émettent, donc ils font partie de notre propre impact carbone. Et cette question-là, elle nous est apparue assez naturellement quand on a travaillé avec Carbone 4 et aussi quand on a vu comment travaillait RTE sur ces trois scopes, sachant que le scope 3, en fait, c'est celui où on émet le plus. Hein. Concrètement, c'est là où il y a le plus de travail à faire. Et quand des entreprises disent « on fait notre bilan carbone », mais quand on regarde dans les lignes et que c'est écrit scope 1, 2, et quand même, il manque un peu de transparence.
Mais c'est sur celui aussi où on peut le moins facilement avoir de l'impact, puisque ça
exactement.
Ne dépend pas entièrement de
ouais,
nous non plus.
Exactement, c'est ça. Et, mais c'est pour ça aussi que pour nous, c'était important de le prendre en compte, parce que ça rétroagit sur la stratégie de la Fondation, sur notre perception de quel est l'impact que nous, on souhaite pouvoir observer sur les territoires ruraux grâce à notre action. Donc si on ne le prend pas en compte, à un moment, il y aura un déséquilibre entre l'impact qu'on rêve d'avoir sur les territoires ruraux et le décalage par rapport à cette empreinte environnementale qui, de toute façon, va avoir des effets négatifs très, très, très rapidement, si ce n'est déjà, de toute façon. Et puis, ce scope 3, ça permet aussi de voir, y a des projets, en fait, ils émettent plus de gaz à effet de serre. C'est structurel, notamment les projets de mobilité, évidemment, ils émettent plus que des projets de maraîchage biologique, faut être lucide. Mais pour autant, c'est des projets qui sont indispensables. Donc, comment on fait, nous, en tant que mécènes, pour avoir une action juste, pour pouvoir mettre des critères qui correspondent à la réalité des enjeux des territoires sans sanctionner des territoires ou des projets où il y a des vrais besoins.
Je suis Vaya Touya, déléguée générale de 4D.
Et le bilan carbone.
Et le bilan carbone, effectivement, il est complètement intégré. Là, on s'approche en fait de l'exemplarité des organisations. Derrière le bilan carbone, pareil, la plupart du temps, ça va être au niveau du bâtiment, au niveau du transport, voire de l'alimentation. Elles peuvent être, ces différents secteurs, ces différentes approches, peuvent être dans la mission, dans les métiers, dans l'organisation véritablement mis en exergue. Et c'est là, en fait, où vous avez toute la question du comptage. Le bilan carbone rapporte aux émissions de gaz à effet de serre émises dans les activités. Et là, il y a deux choses. Déjà, c'est est-ce que je suis capable de collecter la donnée ? Si je ne suis pas capable, qu'est-ce que je peux mettre en place ? Est-ce que d'autres fondations l'ont fait ? Et dans ces conditions, quel type de pair à pair je peux mettre en place de façon à gagner du temps. Et puis surtout, par rapport à mes équipes, est-ce qu'elles sont en mesure aujourd'hui d'intégrer ce bilan carbone ? Et l'idée, ce n'est pas de faire du tableur Excel absolument, puisqu'en fait, quand vous essayez d'être dans l'accompagnement du changement par le tableur Excel, c'est déjà un petit peu compliqué, mais c'est de relier ce tableur Excel à une vision, à l'impact, à la mission. Donc la question du bilan carbone, elle est essentielle. Elle est essentielle par rapport à cette question d'exemplarité sur lesquelles sont de plus en plus attendus les acteurs qui se veulent aujourd'hui porteurs d'un nouveau message et du changement dans son ensemble pour répondre à la question des enjeux.